RMC, les grandes gueules, les GG et vous.
GG et vous avec Emmanuel qui est de Gironde, je vous en prie, venez vous asseoir à la table des grandes gueules. Bonjour, bienvenue monsieur Emmanuel.
Enchanté.
Vous êtes cadre, salarié, merci d'être avec nous.
Cadre.
Merci d'être avec nous dans les GG, dans les grandes gueules. On a parlé de l'indemnisation des cadres tout à l'heure, donc on va réécouter Étienne Liebig et vous en discuter avec lui.
Je regrette ce que j'ai dit.
qui touche 5000 euros au chômage,
dis-moi. Bah, c'est en fonction de ton salaire.
Et alors qui est-ce qui touche l'argent?
Les cadres.
Moi si je suis demain, si je suis au chômage, je touche pas 5000 euros, j'en touche 1500. Je dis rien, je dis juste que c'est normal que les mecs qui touchent 5000 euros
touchent 5000 euros quand ils sont au chômage.
Sont des cadres. Il y a 50% des chômeurs qui ne touchent rien déjà.
Alors allez-y.
Je le défendrai pas, moi. Il se déroule.
Allez-y.
Bon, je voulais juste apporter 2-3 éclairages à Étienne que j'apprécie énormément. Sur ce sujet, oui. Des salauds de cadres qui, d'après l'étude, montrent qu'ils restent au bord de la piscine profitant des allocations chômage.
Mmh. Étienne pourrait même dire joue au golf.
Oui, oui. le cadre qui gagne 5 000 euros ou même 4 000 euros à Pôle emploi, c'est qu'auparavant, il avait un salaire bien supérieur. Tant mieux pour lui, je fais partie des cadres, j'ai eu ce genre de salaire, aujourd'hui beaucoup moins. C'est la vie, c'est comme ça. Sauf qu'il a un train de vie qui va avec. Mmh. Il a un crédit immobilier, il est autre. Croyez-moi, l'ayant vécu, il n'a qu'une hâte, c'est de retrouver du travail parce que, avec 50% de ce qu'il gagnait avant, bien sûr, c'est moins grave que celui qui touche 1000 euros.
Bien sûr.
D'accord. Ouais. Toutes choses par ailleurs. Mais il n'a qu'une hâte, c'est de retrouver du travail. Donc, le cas exceptionnel de celui qui gagne 5000 et qui reste au bord de la piscine, il en existe. C'est un dérapage, mais il en existe aussi à 1000 euros qui reste au bord de la piscine.
Bien sûr.
C'est deuxième éclairage.
C'est la piscine municipale.
Oui, bien sûr. Deuxième éclairage, payé avec les impôts du cadre. Deuxième éclairage, pourquoi ça dure le temps, il reste plus longtemps. Certainement dans ce qu'on dit Zora et Madame l'avocate.
Marianne, oui.
Quand on a, et c'est pas 50 ans, déjà 40 ans et qu'on est cadre, pour retrouver du travail à ces niveaux de salaire-là, croyez-moi, c'est quasiment impossible. On est obligé de faire des efforts et ça dure longtemps. Et quand on est cadre supérieur, plus on reste au chômage, moins on a de chances de retrouver du travail, plus c'est compliqué. Et souvent, on est obligé de monter un cabinet de conseil parce que on doit faire croire qu'on est en activité pour avoir une chance de retrouver. Et troisième point, il y a un problème qui me touche personnellement, c'est la notion d'équité. Pourquoi celui qui gagnera 5000 euros au chômage va avoir des indemnités dégressives? Pourquoi c'est pas 4000? Pourquoi c'est pas 3500? La notion d'équité, alors je sais bien qu'un ancien président avait dit qu'au-dessus de 4000 euros, c'était tous des gens très riches. Mais pour moi, il y a un vrai problème d'équité.
Qui touche 30 000 euros de retraite, c'est ça?
Ou un peu plus, ça, si vous faites de
côté. Monsieur Étienne.
Alors moi, effectivement, je connais pas de gens qui touchent 5000 euros au chômage. En plus, ça représente 15 000 personnes en tout qui restent.
Mais c'est valable pour 4000 ou 3000.
Moins les gens touchent quand ils sont au chômage, plus ils retrouvent du travail vite. Hein, c'est ce qu'on voit sur ce schéma. Il se trouve qu'à 800 euros, on retrouve du travail très très vite. Et en plus, faut savoir qu'il y a 50% des chômeurs qui ne touchent rien. Donc moi, c'est vrai que vu comme ça, je me dis que les gens qui touchent 4-5 000 euros de chômage sont moins pressés et moins pris à la gorge pour se mettre à retrouver du travail. Je dis pas pour ça qu'ils sont très heureux d'être au chômage et qu'ils préféraient pas quand ils bossaient.
C'est votre vision.
C'est votre vision
du sondage.
Je regarde juste que effectivement, j'aurais plus tendance à m'apitoyer sur les gens qui touchent 1000 euros au chômage qu'à sur ceux qui touchent 5000. Ça me paraît évident alors maintenant qu'on me dise que le système est pourri et que les cadres, ils se retrouvent les premiers parce que dès qu'ils ont 40 piges, on leur dit que c'est déjà des seniors et qu'il va falloir qu'il y a les petits jeunes qui arrivent derrière. Aux petits jeunes, on dit qu'ils n'ont pas d'expérience, mais aux autres, on dit qu'ils en ont trop. Là, je suis d'accord avec vous, on a un système
Emmanuel,
pourri.
Emmanuel, merci de cet échange avec Étienne. Tenez, votre t-shirt des grandes gueules. Merci d'avoir été avec nous. Suite du GG et vous dans un instant, direct sur RMC, RMC Story.
RMC, 9h midi. Les grandes gueules.
Vous êtes Odile Doré?
RMC.
Non, je suis le pape et j'attends ma sœur.
J'ai pas de sœur.
9h midi.
C'est pas une raison pour nier votre famille, mon vieux.
Ça commence par les parents, la famille et ensuite.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Si vous voulez dire n'importe quoi, ta gueule.
Les grandes gueules.
Et on attend pas votre sœur?
Les GG, les grandes gueules. On va continuer les GG et vous dans un instant avec Willy. Qui veut reparler avec Olivier de l'affaire Balkany, du réquisitoire. Mais monsieur Brunet, Eric, midi 14h, Radio Brunet.
Un peu énervé aujourd'hui parce que je suis assez scandalisé que le gouvernement décide de rendre les moins de 13 ans pénalement irresponsables. Alors les gens disent, bah oui, un gamin. 13 ans quand même, oui. Enfin, aujourd'hui, tu peux tuer père et mère à 12 ans, tu vas pas en prison, hein. On les mettait pas en prison, les enfants. Bon. Mais là, c'est un cran au-dessus, on les rend pénalement irresponsables, alors même que l'histoire prend un autre sens. Il y a eu un article incroyable, une enquête du Figaro hier qui m'a marqué sur ces milliers de gamins qui viennent du Maroc, mais pas que, qui ont entre 10 et 12 ans. 10 et 12 ans. Ils sont à Bordeaux, à Toulouse, à Paris,
au nord de Paris.
Dans les grandes villes.
Ils sont toxicomanes notamment.
Toxicomanes, ouais. Et ultra violents. Mais vraiment, il y a des assassinats, des meurtres, etc. Donc, le sens de l'histoire nous dit quoi? Que cette délinquance violente est de plus en plus jeune. Et la seule réponse qu'on trouve, nous, Madame Belloubet, le gouvernement de Macron, c'est de dire oui, mais alors attention, pénalement irresponsable en dessous de 13 ans. Je pense qu'il fallait inventer un autre système, mais pas celui-là, parce que ça, c'est vraiment, du coup, la droite se régale, mais elle a raison, la droite, sur ce coup-là, parce que c'est vraiment une mesure d'inspiration laxiste. Voilà.
32-16 pour réagir avec Eric tout à l'heure entre midi et 2 dans Radio Brunet. Les 1000 euros RMC, c'est toujours à gagner, c'est tout au long de la journée. C'est avec les grandes gueules à 9h, c'est avec Vincent Moscato à partir de 16h, mais quand je vous dis à gagner tout au long de la journée, c'est-à-dire comme c'est un tirage au sort, il faut multiplier ses chances d'être tiré au sort, et donc vous envoyez RMC par SMS au 732-16, RMC par SMS au 732-16, vous jouez, vous gagnez tout à l'heure avec le camarade Vincent Moscato dans le Moscato Show. Suite du GG, vous, on va reparler du réquisitoire implacable contre Patrick Balkany, le maire de Levallois. Est-ce que ça mérite de la prison ferme? On écoute l'extrait d'Olivier et il en parle avec William.
Parce que le parquet national financier vient d'être créé
et, oui.
et veut sur son tableau de chasse Balkany.
Voilà.
Ouais, ça m'inquiète sur la façon dont la justice est rendue dans ce pays. Quand même.
Voilà.
Je suis d'accord avec le mot de Dupond-Moretti lorsqu'il parle du puritanisme. On est dans ce puritanisme fiscal où aujourd'hui, dans une France où quand même la première fraude, c'est la fraude à la TVA. Donc c'est quand même la fraude des artisans, des commerçants, des professions libérales, etc. Tout le monde, parce qu'on paye tellement d'impôts, tout le monde on fait un peu de black hein, quand tu vas peindre au black tu fraudes.
William, bonjour.
Oui, bonjour à toutes et tous.
Bonjour, William.
Allez-y, Olivier vous écoute.
Alors Olivier, juste m'expliquer comment vous pouvez différencier donc ce qu'a fait Balkany et le risque de prison ferme. Pour vous, ça vous choque? Et quand sur le même plateau avec Mourad Boudjelal, vous étiez content ou je ne sais pas content, enfin en tout cas, vous étiez d'accord avec un môme de 23 ans qui était parti en tôle, on lui avait tombé son sursis pour avoir shooté dans une grenade dans une manif et être présenté dans une manif la semaine suivante, son sursis est tombé, il a pris 3 mois. Ça vous choquait moins, donc voilà, ça j'aimerais que vous m'expliquiez pourquoi l'un vous choquait pas l'autre. Moi, Balkany, ça me gêne pas qu'il aille au ballon, 7 ans c'est beaucoup peut-être, mais moins, ce serait pas volé. Ensuite, comparer ce qui est comparable, je suis du bâtiment, quand on fait du black, c'est pas pour acheter un riad à Marrakech, hein, c'est pour acheter une nouvelle télé parce que la note déconne, ou manger un peu mieux. Enfin, moi j'ai jamais fait des millions au black.
Le bon fraudeur et le mauvais fraudeur.
Pardon ?
Il y a le bon fraudeur et le mauvais fraudeur, selon vous ?
Non, il y a le grand fraudeur et le petit fraudeur. Voilà, celui qui veut mettre un peu de beurre dans les épinards et celui qui est un riad à Marrakech. Je sais pas si vous voulez qu'elle vous parle pas. Moi, elle me parle.
Elle me parle pas parce que les sommes de Balkany sont dingues.
Mais elle a pas de graduation sur ce sont le.
Mais la loi, la loi pour tout le monde.
Il va en tôle comme le gamin. Il va en tôle comme le gamin. C'est pas grave.
Non, mais ça n'a rien à voir.
Pleurer pour lui.
Non, mais ça n'a rien à voir. Déjà, là, vous me parlez de quelqu'un qui était en récidive, qui avait un sursis. Il a fait péter son sursis puisqu'il a commencer, donc c'est la loi, ça c'est même automatique.
Grave, 13 millions détournés, l'autre il shoot dans une grenade, qu'est-ce qui est grave dans l'histoire?
C'est pas comme ça que ça se passe, la justice. J'ai jamais dit que Balkany, c'était pas grave ce qu'il avait fait. Réécoutez ce qu'on était en train de dire, on parle de la peine et du réquisitoire. Et je trouvais que 7 ans de prison ferme, ça posait une question sur le sens de la peine. La justice, c'est pas une vengeance sociale, on n'est pas là pour se venger de telle ou telle personne, on est là pour rendre le droit, rendre la justice. Et je m'interrogeais sur ce que racontait ce procureur qu'on a cité tout à l'heure. Après, vous me faites des comparaisons, on peut en faire d'autres dans ce cas-là. Je suis étonné que des violeurs ne prennent pas 7 ans de prison. Je suis étonné de voir des crimes de sang qui sont moins sévèrement punis. Voilà, mais j'ai bien l'impression que la mode en ce moment, effectivement, est à traquer le riche fraudeur.
Merci William. Dernier GG et vous, Marianne, pour reparler de Charlie. Avec Jean-Philippe, c'est parti, on écoute Marianne Soubret.
Et sous prétexte qu'il y a eu des morts, on ne pourrait plus critiquer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu critiques, si tu dis que cette une, elle est vulgaire, elle est moche, et franchement, ils auraient pu s'en passer, enfin voilà, elle n'est pas drôle.
Tu penses?
Mais bien sûr, Le fond de ma pensée, c'est que c'est nul. Mais Charlie Hebdo n'a jamais été bon. Aujourd'hui, être Charlie, on te dit que être Charlie, ça voudrait dire que tu n'as pas le droit de critiquer Charlie Hebdo. Mais être Charlie, c'est dire, vous avez le droit de faire de la merde et j'ai le droit de vous dire que vous faites de la merde.
Absolument.
Et donc, je leur dis, vous faites de la merde.
Jean-Philippe, bonjour.
Je suis d'accord avec moi-même.
Oui. Jean-Philippe, allez-y.
T'es cohérente.
Bonjour, Marianne Soubret.
Bonjour, Jean-Philippe.
Alors, moi, je tiens tout de suite à dire que je suis un fervent défenseur du droit des femmes. Et que moi, je vous appelle parce que je ne partage pas votre avis.
Et c'est votre droit.
Ouais, tout à fait. Alors, moi, je pense qu'il faut se détendre. Il ne faut pas prendre cette une vraiment au premier degré.
Oui.
Pour moi, Charlie fait purement une provocation. Attention, je suis pas Charlie dans tous les cas, dans toutes les unes, hein, tout le temps. Je me déclare pas forcément Charlie tout le temps. Mais là, quand j'ai vu cette une-là sur Facebook, notamment, ça m'a bien fait rire. Et puis je trouve que c'est important de pas le prendre sous le ton de la polémique, cette une, parce que, petit à petit, de s'offusquer de tout, que ce soit les réseaux sociaux, les journalistes, etc. Et donc, moi, je trouve qu'on fait que grignoter un peu plus nos libertés. Notre liberté de ton, notamment.
C'est marrant, Jean-Philippe, vous démontrez exactement ce que je disais. C'est un gros bug, ouais. il y a une énorme ambiguïté. Les gens pensent aujourd'hui que, d'abord, être Charlie, ça veut juste dire « je suis pour la liberté d'expression et faites bien ce que vous voulez ». Et Charlie, je l'ai toujours été dans ce sens-là et je le suis encore. Les gens pensent aujourd'hui que formuler une critique serait possible. Et que formuler une critique, ça serait vouloir la censure. Là, vous êtes en train de me dire la société puritaniste, etc. Mais moi, je m'en fous. Je ne veux pas la censure. Ils ont le droit de le faire. Je veux dire, et que cette une, elle soit partout. Et j'ai vraiment rigolé quand j'ai vu la tête d'Alain entre les deux jambes.
Ça le fait rire. Alors.
Non, mais ce qui m'a fait rire, c'est voir sa tête. Ça, je t'avoue que là, ça m'a fait beaucoup rire. Mais voilà, il faut pas confondre, Jean-Philippe. Je veux pas qu'on le interdise. C'est voilà.
Et tout va bien dans le meilleur des mondes, alors.
Mais oui.
Au final,
c'est juste qu'elle est sexiste.
J'ai quand même le droit de formuler sur le fond le fait que ça me plaît pas.
Ce qui inquiète Jean-Philippe, ce qui inquiète Jean-Philippe, c'est qu'aujourd'hui
on caricature nous.
Non, c'est pas ça. Ouais, parce que toi, ça ne me plaît pas, mais je ne pas l'interdiction. Et Jean-Philippe, ce qui lui fait peur, c'est que le degré d'offuscation devient de plus en plus important et que derrière, on en arrive à la censure ou à l'autocensure.
Je comprends, mais c'est pas du tout le fond de ma pensée. Le fond de ma pensée, c'est que ça me plaît pas et que j'ai envie de le dire et qu'ils ont le droit de le faire. C'est tout.
Ok. Moi, ce que je voulais relever par votre position, qui finalement est proche de la mienne au final, c'est que moi, je trouve qu'à l'heure actuelle, les libertés, on les réduit de plus en plus, parce qu'il y a toujours une association pour venir vous dire, vous faire la morale. Là, c'est pas bien de dire ça, de faire ça.
Vous avez la loi aussi.
Sur RNC, Riolo et Rotem. Alors attention, je les adoube pas, sûrement pas, parce qu'ils sont chauds quand même, hein, Riolo et Rotem. Ouais. Mais voilà, ça réagit.
Mais ils ont tué personne.
On réagit au quart tour, il y a toujours des gens.
Ils sont pas condamnés.
Ah, mais on était limite de demander leur renvoi.
Quand tu renvoies quelqu'un, c'était condamné à mort socialement.
C'était pas drôle, c'était complètement à côté de la plaque.
Ça valait de se faire en guirlandais.
Merci Jean-Philippe. On se retrouve lundi, 9h midi. Nous serons avec Didier Giraud, Anas Kazi, Marianne sera avec nous à 11h. Un duo, Nathalie Garçon, Marianne James, la chanteuse comédienne et la styliste, pour défendre les femmes de plus de 50 ans, dire oui, on a 50 ans, on doit pouvoir exister artistiquement, médiatiquement, avoir une visibilité. Oui, on peut avoir 50 ans, être femme et fière de l'être. L'invisibilité des femmes. Passez un bon week-end et rendez-vous lundi à 9h.
RMC, les grandes gueules.